Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Nous approchons de Noël. Alors, j'ai pensé proposer plusieurs épisodes autour de la neige, quelques textes historiques majeurs sur la description scientifique des flocons de neige. Johannes Kepler est né en 1571 en Bavière. Il est probablement le premier à avoir regardé un flocon de neige avec les yeux d'un scientifique ou plus précisément d'un mathématicien. Mais bien sûr, Kepler n'a pas fait que ça. Il est surtout connu comme astronome, l'un des plus importants de tous les temps. Pendant très longtemps, on pensait que le Soleil et toutes les planètes tournaient autour de la Terre et que leur mouvement était formé de cercles qui se superposaient les uns aux autres. Kepler est l'un de ceux qui ont remis tout ça en question. Grâce à lui, nous savons maintenant que la Terre et les planètes tournent autour du Soleil en suivant des trajectoires qui ne sont pas des cercles mais des ovales qu'on appelle des ellipses. Il a osé contredire ce que presque tous les savants affirmé depuis de nombreux siècles. Il faut savoir que ce début du XVIIe siècle est un moment de transition. Au Moyen-Âge qui s'achève, les sciences et les techniques ont progressé, mais en restant sous l'autorité de la religion. Dans le nouveau monde qui s'installe, la science n'a pas nécessairement besoin de la théologie pour expliquer la nature. Kepler a un pied de chaque côté, très religieux. Ces théories l'éloignent pourtant des doctrines officielles. Son but est de comprendre l'œuvre de Dieu à partir de principes mathématiques simples. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il cherche à comprendre le monde en utilisant des principes de symétrie. Sans exagérer, on peut dire que 400 ans plus tard, il s'agit encore de l'une des idées essentielles en science. Les symétries gouvernent la physique et les mathématiques, comme dans l'exemple des flocons. Le 31 décembre 1610, il était invité chez un bienfaiteur pour fêter la nouvelle année. En marchant, il cherchait une idée de cadeau. Alors qu'il traversait un pont, la neige se mit à tomber et un flocon se déposa sur la manche de son manteau. Kepler observa ce flocon et fut immédiatement émerveillé. Tant de beauté dans une chose si petite. C'était un flocon qu'il fallait offrir à son ami. Le cadeau idéal pour un mathématicien, selon lui, puisqu'il vient du paradis et ressemble à une étoile. Écoutons quelques extraits de son livre que beaucoup considèrent comme l'acte fondateur de la cristallographie. Titre. Cadeau du Nouvel An ou du flocon de neige hexagonal. Dédicace. À l'illustre conseiller à la cour de Sa Sacrée Majesté Impériale, Jean Matthaus Wacker de Wackenfels, chevalier, etc., etc. Mécène des gens de lettres et des philosophes, mon maître et bienfaiteur. Je sais combien vous aimez le rien, non tant en raison de son faible prix qu'à cause du divertissement aussi charmant qu'esprit vif, et je puis aisément deviner que plus un présent s'approchera du rien, plus il vous sera agréable et bienvenu. Tout ce qui vous attire par quelques suggestions de rien doit être à la fois exigu et minuscule, très peu coûteux et éphémère, en fait presque rien. Bien qu'il existe en la nature une multitude de choses de cette sorte, le choix entre elles nous demeure ouvert. C'est plongé dans de telles réflexions anxieuses que je franchissais le pont, embarrassé de ma discourtoisie, pour m'être présenté devant vous sans étrenne de nouvel an. Irrité aussi de ne pas trouver ce qui n'est presque rien, mais prête pourtant à quelques traits d'esprit. Juste à ce moment, par un heureux hasard, la vapeur d'eau fut condensée par le froid en neige, et de petites plumes tombèrent çà et là sur mon manteau, toutes à six coins, avec des rayons plumeux. Ma parole, c'était là quelque chose de plus petit que n'importe quelle goutte, et pourtant doté d'une forme. C'était l'étrenne idéale pour l'amateur de rien, la chose même qu'un mathématicien peut offrir, lui qui n'a rien et ne reçoit rien, puisqu'elle descend du ciel et ressemble à une étoile. Notre question est la suivante. Pourquoi les flocons de neige au début de leur chute, avant d'être pris dans de plus grands panaches, tombent-ils toujours avec six coins et six tiges garnies comme des plumes ? Je me tourne vers le roi David qui compte parmi les louanges de Dieu le fait qu'il donne la neige comme de la laine. Par cette formule, si je ne me trompe, il entendait ces petites touffes laineuses de mon flocon. Probablement, lorsqu'il était fatigué et qu'il s'asseyait ou qu'il restait debout assis sur son bâton pour garder son troupeau, il voyait et observait ces petites étoiles de neige se déposer sur la toison des brebis et s'y accrocher. Mais, plaisanterie mise à part, venons-en à l'affaire sérieuse. Il doit bien exister une cause précise pour que chaque fois que la neige commence à tomber, ces premières formations présentent invariablement la forme d'une petite étoile à six coins. Car, si cela se produisait par hasard, pourquoi ne tomberait-elle pas tout aussi bien à cinq coins ou à sept ? Car, la substance de la neige est de la vapeur. Et lorsque la vapeur s'élève de la terre, portée par quelque chaleur inhérente, elle se maintient simplement dans un état presque liquide et n'est donc pas divisée en petites étoiles de ce genre. Quand l'humidité est dissoute, le froid engendre assurément la condensation. Et par la condensation, la vapeur se resserre en une forme étoilée. Il semblait donc que le froid lui donna cette forme. Puis nous en vîmes à une autre réflexion. Le froid est-il une force de la nature, comme la chaleur des médecins ? Par exemple, si toute la surface extérieure de la vapeur venait sous l'action du froid à acquérir densité, de la densité le poids, du poids le mouvement vers le bas, et de ce mouvement vers le bas la désagrégation en miettes ou en feuillets, alors de tous ces feuillets, tous ne seraient certainement pas, mais bien peu en vérité, je doute qu'il y en ait un seul qui se révèle hexagonaux. Et mieux encore, doté de rayons, avec une symétrie si parfaite. Ces rayures me rappellent ce qui se passe dans les bains turcs, lorsque le gel de l'hiver assiège les vitres brisées. Et l'air froid et la vapeur s'affrontent en ces passages frontières. Chaque fois qu'ils viennent en contact l'un de l'autre, la chaleur monte et le froid descend, car il y a dilatation de la matière dans les corps chauds, mais densité et poids dans les corps froids. Par cette alternance d'entrée et de sortie, ces formations de givre acquièrent des stries et des pointes acérées. Rien de tout cela ne peut s'appliquer à la formation de notre petit flocon de neige. J'admets qu'au cours de leur chute depuis le haut, à travers un air vaporeux, il peut se produire sur les plumes quelques incrustations dues à la vapeur qui les touche. Mais pourquoi en 6 points ? Quelle est l'origine du nombre 6 ? Qui a sculpté le noyau avant sa chute en 6 corne de glace, quelle cause prescrit sur cette surface qui est précisément en train de se condenser 6 points disposés en cercle pour que 6 pointes viennent s'y souder. Quelle est donc la cause pour laquelle la condensation se produit sur ces 3 rayons plumeux plutôt que sous la forme d'une sphère parfaite ? Admettons donc que la vapeur se coagule en globules d'une taille déterminée dès qu'elle commence à sentir l'assaut du froid. C'est raisonnable, la goutte est la plus petite unité naturelle d'un liquide comme l'eau. Quelqu'un pourrait penser que ces particules plumeuses errent ça et là, poussière après poussière, et qu'au cours de leur chute, elles se croisent au hasard. Mais c'est une erreur. Elles ne se rencontreraient pas toujours par 3, ni en leur point médian, ni en un seul et même point. En outre, toutes les plumes s'étendent vers l'extérieur, à partir du centre de l'étoile, comme des aiguilles sur les branches d'un sapin. Cela prouve que la puissance formatrice réside au centre et de là, se diffuse également dans toutes les directions. La cause de la forme hexagonale d'un flocon de neige n'est autre que celle des formes ordonnées des plantes. Et puisque, en elles, rien ne se produit sans une raison suprême, non certes une raison telle que la découvre le raisonnement discursif, mais telle qu'elle existait dès l'origine dans le dessein du Créateur et qu'elle se conserve, depuis ce premier moment jusqu'à aujourd'hui, dans la nature admirable des facultés animales, je ne crois pas que même dans un flocon de neige, cet ordre se rencontre au hasard. Il existe donc dans le corps de la Terre une faculté formatrice dont le support est la vapeur, comme l'âme humaine est le support de l'esprit, à tel point qu'aucune vapeur n'existe jamais sans être tenue par un principe formateur. Tandis que j'écris, il s'est remis à neiger et plus dru qu'à l'instant. Je n'ai cessé d'examiner les petits flocons. Eh bien, ils tombaient tous selon un motif radial, mais de deux espèces. Certains très petits, avec des pointes insérées tout autour, en nombre indéfini, de forme simple, sans plumes ni rayures, très fins, mais réunis au centre en un globule un peu plus gros. Mais disséminés parmi eux se rencontraient les plus rares petites étoiles à six coins de la seconde espèce, et pas une seule n'était autre chose que plate, qu'elle flotta ou qu'elle vint toucher le sol, les plumes étant disposées dans le même plan que leur tige. De plus, sous le flocon, une septième pointe s'inclinait vers le bas comme une racine, et dans leur chute, ils se posaient sur elle et restaient ainsi soutenus pendant un moment. Ainsi, dans la seconde espèce, celle des petites étoiles, il n'y a pas lieu d'observer cube ou octaèdre, il n'y a pas de contact de gouttes, puisqu'elles se déposent comme des objets plats. Bien qu'ici encore l'âme formatrice garde sa fonction et demeure l'œuvre comme cause, la question du choix de la forme doit être reprise. D'abord, pourquoi plate ? Ensuite, pourquoi à six coins ? La faculté formatrice choisit l'hexagonalité, non sous la contrainte d'une nécessité matérielle ou spatiale, mais uniquement parce qu'elle est séduite par cette convenance grâce à laquelle l'hexagone peut paver un plan sans reste, et plus que toute autre figure ayant cette même capacité, ressemble au cercle. Maintenant que j'ai frappé à la porte de la chimie et que je vois combien il reste à dire avant que nous puissions saisir notre cause, je préfère entendre ce qu'un homme de votre grande pénétration en pense plutôt que de me fatiguer davantage en discours. Vous avez entendu un extrait des Vêpres à la Vierge dirigé par John Eliot Gardiner, composé par Claudio Monteverdi en 1610, la même année que le livre de Kepler. On y entend en particulier le psaume 147, Lauda Jérusalem, celui que cite Kepler. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid ? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.